Prince en liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature. Et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler tous les quatrièmes lundis de chaque mois, entre 18h et 19h30, sur 89.4, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona, et de Monique à Paris. Bonjour à vous, je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission.
Aucun doute, il y a eu l'apparition des cellules et de la vie. Une lente émergence à partir de molécules complexes qui se sont associées, et de ces molécules ont mécaniquement émergé des êtres vivants. Seulement ce fait remonte à plus de 3 milliards d'années. Alors décoder ce qu'est un être vivant n'a rien de très simple. Nous nous savons entourés de ces choses singulières que nous nommons les bactéries. De quoi s'agit-il ? Oh, elles nous semblent bien familières et on les connaît souvent que sous les noms ésotériques comme Echicheria coli ou épouvantables comme le bacille de Koch donnant la tuberculose ou encore le staphylocoque doré. Les bactéries sont des organismes vivants unicellulaires, à une seule cellule. Ils sont très anciens, présents dans tous les milieux et d'une taille incroyablement petite, puisque les plus gros sont à peine 2 microns, les plus petites 0,2 microns. Ça veut dire qu'il peut tenir des millions de bactéries sur une simple tête d'épingle. Elles ont germé sur la Terre dès le début de l'histoire évolutive. Mais elles n'ont rien à voir avec nous. Rien. Car les bactéries ont bifurqué vers un autre monde. À côté des bactéries, sont apparus des êtres vivants immenses et complexes, les eucaryotes, des organismes dont les cellules ont des noyaux cellulaires, tandis que les bactéries n'en ont pas. Les eucaryotes, c'est l'ensemble des paramécies et des amibes, l'ensemble des champignons, l'ensemble des plantes et l'ensemble des animaux, et nous avec, nous sommes des eucaryotes. Autant dire que le succès de ces espèces est considérable. Il s'agit bien de la plus grande bifurcation de tous les temps, d'un côté les bactéries, et de l'autre, nous-mêmes, et tous les eucaryotes. Mais pourquoi disposons-nous d'un noyau au sein de nos cellules, à la différence des bactéries? Et d'où vient-il ce noyau? Et même, nous, d'où venons-nous? Car l'origine des eucaryotes est l'une des questions les plus énigmatiques de la biologie évolutive. Mais voilà! Nous allons voir qu'en comparant les bactéries et les eucaryotes, en examinant chaque détail de cette bifurcation primitive, chaque structure, nous allons voir que l'énigme du noyau qui introduit les eucaryotes va nous conduire à une stupéfiante explication. Et savez-vous, il sera question de sexe.
Connaît son groupe sanguin, calcule ses biorites. fait son service planqué dans un bureau. Il est tout mou, tout dégonflé. Roule de pâte à modeler. Tout mou, tout dégonflé. Animal aux aguets.
Écoutions Tom Novembre, tout mou, tout dégonflé. Bonjour à vous, intrépides auditrices et curieux auditeurs, je suis Siona et je suis avec Thierry pour parler de l'origine des cellules à noyau.
Et donc aujourd'hui, nous allons nous poser cette question. Qu'est-ce que c'est qu'une cellule à noyau? Pourquoi sommes-nous devenus des eucaryotes? Tout d'abord, regardons soigneusement le contenu d'une cellule vivante. Les eucaryotes, c'est-à-dire les organismes qui possèdent des cellules à noyaux, regroupent les protozoaires, les végétaux, les champignons et les animaux. Vous et moi. Il y a un noyau renfermant de l'ADN, une membrane externe et de drôles de petites constructions. Un peu insolites, les mitochondries, etc. Nous en reparlerons. Mais une énigme résiste encore. D'où viennent les premiers eucaryotes? Quand se sont-ils différenciés des bactéries? La divergence entre les bactéries et les eucaryotes reste certainement la plus grande discontinuité évolutive de tous les temps. Une révolution naturelle qui sépara deux organisations biologiques à jamais incomparables. Apparue quelque part dans les vapeurs sulfurées et les argiles primitives, peut-être, on ne sait pas. L'atmosphère primordiale aurait sûrement empoisonné les débuts de la vie. Alors, d'où viennent-ils ces organismes eucaryotiques qui se diversifient ensuite en quatre clades, les protistes, les champignons, les plantes et les animaux?
qu'est-ce qui fait que ces quatre groupes forment ensemble les eucaryotes ?
Alors nous sommes, vous êtes des eucaryotes, ça veut dire, selon l'étymologie grecque, eux ça veut dire véritable, et karyos c'est le noyau. Donc ça signifie, eucaryote, que nos cellules ont un vrai noyau. Et ça c'est une coupure incroyable qui nous sépare de tous les autres organismes précédents. Ici vont s'affirmer deux domaines plus étranges, plus opposés que n'importe où ailleurs. En face des eucaryotes existent des univers totalement différents, sans noyau cellulaire. Alors c'est un petit peu complexe, il y a d'un côté les virus, qui sont des petites coquilles de protéines qui entourent un ADN, et de l'autre côté il y a ce qu'on appelle les procaryotes, qui regroupent les bactéries, et puis un groupe très proche des bactéries, les archées.
Les bactéries, c'est les procaryotes alors ?
En fait, on les nomme procaryotes, ce qui voudrait dire qu'ils sont proches, que prochainement ils auront peut-être un noyau. Mais dans la réalité, évidemment, ils n'en ont pas. Et les eucaryotes, ce qui était anciennement baptisé les eucaryotes, constituent deux groupes, en fait, qui sont très primitifs et qui se ressemblent pas mal. Les bactéries vraies et les archées. Et les bactéries vraies et les archées ont même divergé entre les deux en colonisant des milieux extrêmes. Toutes les bactéries, toutes les archées sont des êtres unicellulaires répandus partout, dans le moindre interstice, depuis le plus petit brin d'herbe jusqu'aux sources d'eau brûlante. Et elles se divisent sans cesse, elles prolifèrent. Toutes ces bactéries et ces archées sont composées d'une cellule, d'une seule cellule, ils sont unicellulaires, et ils comprennent un ADN.
En fait, quelles sont les différences avec nous ?
Alors, avec les eucaryotes, il y a pas mal de différences. La première différence, c'est que l'ADN des bactéries est généralement circulaire. Il y a un petit cercle supplémentaire, un petit brin d'ADN supplémentaire qu'on appelle le plasmide. En plus de cet ADN circulaire et de ce plasmide, pas de noyau. Autour, il n'y a rien. Mais par contre, la bactérie elle-même possède une solide paroi faite de molécules spécifiques, notamment les peptidoglycanes. C'est une paroi bactérienne épaisse qui protège la bactérie d'extérieur. C'est pas tout à fait pareil chez les archées, mais c'est pas très très grave. Du coup, les bactéries ne peuvent pas vraiment s'associer entre elles parce que leur paroi fait obstacle. C'est ici qu'intervient la deuxième différence. Les bactéries ne réussissent à former que des assemblages généralement pas beaucoup cohérents. Ce sont les films bactériens, ou alors ils vivent en colonies bactériennes.
Tu me surprends, surprenant, de parler de films en biologie. Ces films bactériens, on les voit se former à la surface des eaux croupies.
C'est tout à fait ça, c'est ces petites choses bizarres là, qui semblent flotter, qui nous donnent une lumière particulière, mais on les trouve aussi dans le tartre, par exemple, des WC. Voilà. Alors, troisième différence, les bactéries ne disposent pas de noyau, pas de compartiment pour protéger l'ADN. Quoi qu'il en soit, on peut penser que l'origine du noyau va marquer de manière essentielle le début de la divergence entre tous ces groupes-là et la cellule eucaryote. Donc, les bactéries n'ont pas de noyau et pourtant, elles sont parfaitement capables de résister à des conditions extrêmes.
Par exemple, à quelle température ?
Eh bien, les bactéries du genre Psychrobacter, par exemple, peuvent croître à moins 10 degrés, rester en vie et même garder des capacités de métabolisme à moins 20 degrés. Alors qu'un mammifère, par exemple, ne peut pas survivre, sauf s'il a une température d'environ 38 degrés. Au-dessus de 40, 45 degrés, il meurt. Au-dessous, il a du mal à survivre. Bon, il peut évidemment hiberner, mais ce sont des cas particuliers. Et surtout, ils ne descendent jamais au-dessous du point de congélation.
Ouais, en fait, on voit que la bifurcation est importante entre bactéries et eucaryotes.
Tout à fait. Mais il y a encore une autre différence, une différence encore pire. Cette différence, c'est que les bactéries ne pratiquent pas le sexe méiotique, pratiquent pas le sexe. Alors que tous les eucaryotes, nous, évidemment, sommes faits pour le sexe. Nous en faisons sans arrêt du sexe. Et même la plupart des eucaryotes, 95% des eucaryotes, ont une reproduction sexuée. Donc on voit ici que la bifurcation est absolument inouïe.
C'était Madeleine des Balfa Brothers. Nous revoilà sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans dieu et sans publicité. Et nous cherchons toujours pourquoi nos cellules possèdent un noyau puisque les bactéries n'en ont pas.
En effet, à la différence de ces organismes très simples, les eucaryotes sont eux organisés d'une manière très complexe. Même les plus élémentaires des eucaryotes sont complexes. Une cellule eucaryotique est 1000 fois plus grande qu'une bactérie et nos cellules possèdent le fameux noyau typique des eucaryotes.
En fait, d'où vient ce gros compartiment nucléaire? Est-il un produit d'un mélange entre deux ou trois bactéries?
Alors, il serait tentant d'imaginer en effet que le noyau, qui est la caractéristique de tous les eucaryotes, puisse trouver son origine dans un épisode de symbiose, c'est-à-dire dans une association entre plusieurs procaryotes primitifs. Il y a des pistes. Mais le génome des eucaryotes, notre patrimoine génétique, paraît une mosaïque d'éléments de différentes provenances. Des analyses montrent que des gènes de bactéries et d'archées se sont amalgamés à l'intérieur de nos cellules. Néanmoins, quand on examine ces gènes impliqués, on n'aboutit pas du tout à la reconstruction d'un passé simple. Les eucaryotes possèdent aussi leurs propres gènes, inconnus des autres, qui apparaissent mystérieusement disposés au cœur de notre cellule. Donc pour le moment, on ne comprend pas tout.
Oui, alors avec des gènes propres, il faut chercher ailleurs.
Oui, il faut chercher ailleurs et en plus, c'est pas du tout simple parce qu'il faut se rappeler que tout ça commence à une époque des toutes premières cellules. Un monde microscopique et particulièrement inconnu. On avait des briques de protéines, des morceaux d'ADN, des bulles de lipides et tout ce monde des premiers procaryotes, des premières bactéries archaïques, va en survivre dans des flaques d'eau plus ou moins toxiques ou sur des argiles brûlantes. Les bactéries vont s'ébrouer partout sur une planète qui est quand même un véritable élément de fusion. Comment est-ce qu'on peut imaginer, dans cette ambiance infernale, la construction rudimentaire de petites cellules, de vraies cellules complexes à noyaux, qui seront très grosses proportionnellement aux autres et surtout très fragiles, avec une membrane très très différente. La composition fondamentale de ces organismes très délicats reste totalement incompréhensible dans le bouillonnement de ces époques relativement inquiétantes.
Et ça devait être l'apocalypse, il ne devait vraiment pas y faire bon vivre sur notre planète.
Oui, si on imagine les procaryotes qui sont présents depuis des millions d'années, il faut se rappeler que sommairement, ces premières cellules primitives, il faudrait qu'elles puissent s'approcher l'une de l'autre pour faire une symbiose. C'est la première idée. Elles vont s'associer, elles vont faire passer le noyau d'un côté à l'autre. Le noyau sera en quelque sorte un vagabond intercellulaire qui se serait ensuite sédentarisé. Ces bactéries, elles auraient pris leur temps pour cette promenade élémentaire, puisqu'il aurait fallu plus d'un milliard d'années pour que les premiers eucaryotes apparaissent.
Alors, quelles sont actuellement les origines qui expliqueraient leur origine?
Les théories qui expliqueraient leur origine.
Oui. Les théories.
Alors, il y a plusieurs théories qui se disputent pour l'instant cette construction primaire. La première des théories, c'est le modèle dit syntrophique, c'est-à-dire que c'est l'idée d'une intégration progressive qui s'est effectuée à la fois avec des archées et avec des bactéries dans un ordre ou dans l'autre. Et petit à petit, un transfert de gènes aurait permis l'import d'un matériel qui provenait des archées. On aurait en quelque sorte une archée à l'intérieur d'une bactérie et serait donnée la cellule à noyau.
Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas tout le vocabulaire biologique, est-ce que tu peux expliquer le transfert horizontal?
Oui, en fait, les gènes se seraient passés directement d'un ADN à l'autre, c'est pas plus compliqué que ça. Au contraire de ce modèle, le modèle des zéocytes, alors c'est James Lake qui s'est posé avec ce modèle-là, et il est resté beaucoup plus controversé. Lake a supposé qu'il y avait des ancêtres communs, qu'on appellerait les zéocytes, et qui seraient communs entre les archées et les eucaryotes. Ça serait donc un groupe hypothétique, ancien, qui se serait d'abord différencié des bactéries, donc il y aurait eu des bactéries, puis ce groupe des zéocytes, et ce groupe des zéocytes aurait ensuite développé d'un côté les archées, et de l'autre côté nos ancêtres eucaryotes. Ça marche assez bien avec les reconstructions d'arbres phylétiques, mais c'est quand même pas très très simple. En tout cas, ça expliquerait pourquoi nous avons, nous, dans notre patrimoine génétique, un tel mélange. Et nos parentes les plus proches seraient bien les archées. Toutefois, des bactéries symbiotiques ou parasites, on en connaît. Par contre, des archées symbiotiques ou parasites, là, on n'en connaît pas du tout. On ne sait pas du tout comment ça pourrait exister. Il y a une autre conception qui a été développée par Philippe Bell. C'est le modèle dit de fusion virale. Alors, en fait, il faut supposer que le noyau serait le produit d'une fusion élémentaire avec un virus. Un virus, ça peut faire du mal à un prokaryote en envoyant de l'ADN dans cette eucaryote, dans ce prokaryote, pardon. Et donc, il aurait envoyé cet ADN et cette union aurait fini par former le premier eucaryote. À chaque fois, évidemment, cet événement endosymbiotique est très facilement admis par la communauté scientifique parce que ça concerne de minuscules organismes à un stade unicellulaire très primitif.
Oui, mais il faut qu'une bactérie primitive ait absorbé une autre bactérie ou un virus. Sinon, il n'y a pas d'association. En sont-elles vraiment capables ?
Alors ça, tu as raison, c'est tout à fait le vrai problème. Autant on peut supposer qu'un virus est capable de s'injecter à l'intérieur d'une bactérie, autant il est difficile qu'il y survive. Quant aux bactéries, elles ne pourront pas assimiler des substances organiques pour se nourrir à partir d'autres bactéries simples. Donc les bactéries, elles sont en général dites autotrophes. C'est-à-dire que ce sont des bactéries qui vont générer de la matière organique à partir de leurs éléments minéraux. Et elles vont utiliser souvent la lumière comme énergie, un peu à la manière des plantes. La nourriture dissoute peut aussi s'absorber par osmose. Là, c'est une diffusion directe de fines particules alimentaires à travers la membrane. Mais évidemment, cette aptitude-là ne suffit pas, parce qu'il faut assimiler quelque chose de beaucoup plus gros. Et la seule aptitude pour assimiler des très gros éléments, c'est ce qu'on nomme scientifiquement la phagotrophie. C'est ce que font par exemple vos globules blancs, ils sont capables de phagocyter des bactéries. Mais cette phagocytose ou cette phagotrophie, si c'est une des conditions nécessaires pour qu'une cellule primitive puisse absorber une bactérie sans la dissoudre totalement, et donc permettant éventuellement une symbiose pour l'apparition des eucaryotes, eh bien, elle est quand même assez peu probable, car la Terre primitive de l'époque ne laisse pas tellement de place à un scénario aussi optimiste. L'histoire va peut-être privilégier des bactéries ou d'autres prokaryotes comme première organisation de la vie, mais ça ne suffit pas pour comprendre l'apparition des eucaryotes. Si les prokaryotes sont apparues, c'est parce qu'elles paraissent assez élémentaires pour survivre dans les conditions épouvantables de cette période qu'on appelle la période archéenne.
Oui, alors donc, en résumant, les bactéries ne peuvent pas être à l'origine des eucaryotes.
Il y a bien des choses qui paraissent étranges pour admettre un scénario de symbiose dans lequel deux bactéries se seraient associées pour former un eucaryote. D'abord, il faut se rappeler que chez les eucaryotes, on a une très fine membrane générale. Mais la membrane du noyau est aussi très fine. Et elle est très très différente de toutes les autres membranes, quelles qu'elles soient. C'est pas du tout comme les coquilles des virus, c'est pas comme les enveloppes des archées, et c'est encore moins semblable à la paroi des bactéries. Les molécules sont vraiment trop trop différentes, hein, des peptidoglycanes, on l'a dit déjà tout à l'heure. En outre, toutes les théories qui parlent de cette endosymbiose vont se heurter à un véritable problème. C'est pourquoi le sexe existe chez les seuls eucaryotes, et ce mécanisme du sexe, c'est celui qui va former les grandes combinaisons de l'ADN.
Et qui crée de la diversité.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les autres organites qui sont considérés comme des endosymbiotes, comme symbiotiques des eucaryotes, par exemple les mitochondries ou encore les chloroplastes, qui sont des petites organelles qui vivent à l'intérieur de nos cellules, eh bien les mitochondries ou les chloroplastes disposent de leur propre ADN. Et cet ADN-là, ils ne le mélangent pas avec l'ADN contenu dans le noyau. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de mélange entre eux. Alors qu'au contraire, dans le noyau, grâce au noyau, il y a un passage de gènes avec un autre noyau d'une autre cellule. C'est ce qu'on va appeler la sexualité. On va passer ces gènes. Donc on voit très bien que ça ne peut pas coller cette histoire. Les organismes qui sont des vrais symbiotes, comme par exemple les mitochondries ou les chloroplastes, ne vont pas donner de gènes, alors qu'au contraire, Le noyau, lui, va passer sa vie à mêler de l'ADN dans ce que nous nommons la recombinaison méiotique, c'est-à-dire la sexualité. On a même l'impression que chez les eucaryotes, le noyau ne sert qu'à ça. Voilà, le sexe qui revient sans crier gare. Car finalement, la nature essentielle des eucaryotes est dans le sexe.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligot, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie, j'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais me brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe, le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant, d'avec ma femme j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez. Au milieu de la figure, je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne. Valencelle-là, qui bien sûr laissait beaucoup, trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit faire un tour sur la grande ours. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des hallebardes. Je m'en bats l'œil, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes. Y a 107 ans qui dit mieux, j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.
C'était bien sûr notre unique Georges Brassens, Auprès de mon arbre.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, et dans Science en Liberté, une émission faite pour se demander ce qu'on fout sur Terre, bordel!
Alors en fait, comment se fait-il? Car chercher l'origine du noyau cellulaire, on retombe encore sur l'importance du sexe.
Eh bien, c'est justement ça qui est très intéressant. Il convient de préciser ce qui caractérise les eucaryotes, c'est-à-dire nous-mêmes et quelques autres, c'est cette ahurissante sexualité, une propension généralisée à user du sexe et donc de la recombinaison méiotique. Les eucaryotes ne vivent que de sexe. Alors, il faut bien comprendre que tout ça, c'est quelque chose de très étonnant. Ce qui va caractériser les procaryotes, c'est des cellules immenses, possédant un véritable noyau, avec une membrane extraordinairement fine, qui n'a rien à voir avec la grosse membrane, la grosse paroi bactérienne, et quelques petites inclusions dans cette énorme cellule. Mais nous cherchons toujours à comprendre pourquoi il y a un noyau avec de l'ADN dedans. Et comme c'est ça qui définit les eucaryotes, comme c'est à cause de ce noyau qu'on parle d'eucaryotes. Les eucaryotes, ce sont les porteurs de noyaux, c'est-à-dire nous-mêmes. Eh bien, nous sommes un peu comme Diogène, à la lueur de la lampe du raisonnement scientifique. Nous cherchons, nous errons.
Ah oui, c'est terrible. Oui, j'ai compris que l'apparition des cellules à noyaux est probablement la plus grande de toutes les divergences évolutives. Comment comprendre cette discontinuité incroyable ?
C'est tout à fait incroyable, en effet, puisque on a vraiment, sur cette planète primitive, d'un côté, ce groupe des bactéries, des archées et des virus qui sont encore plus primitifs qui vont apparaître et qui vont se former d'une manière parfaitement viable, puisqu'il n'y a rien de plus viable actuellement que les bactéries ou que les virus, ils tiennent très bien le coup, hein, ils n'ont pas besoin de nous pour continuer leur évolution tranquille, et qui tous possèdent des coquilles, des parois, tout un ensemble de choses, mais qui sont caractérisés par le fait d'être tous des unicellulaires. Et de l'autre côté, on a ce groupe étrange, celui des eucaryotes, des cellules à noyaux, qui vont commencer par quelques paramécies, quelques amibes, quelques colpodes, mais qui très très vite vont associer des cellules entre elles pour former des êtres vivants entiers. On reviendra d'ailleurs sur cette question de la pluricellularité parce qu'elle est intéressante. En fait, si on veut comprendre pourquoi les eucaryotes sont apparus, il faut essayer de comprendre quelle est la question évolutive. La question évolutive qui se pose, c'est évidemment à quoi sert le noyau cellulaire ? Alors cette question, c'est une question, on va dire, un petit peu banale. La poser comme ça, on ne va pas finalement facilement trouver des réponses. On va plutôt trouver des réponses si on se pose la question de quels sont les avantages d'avoir un noyau. Quels avantages va donner le fait de disposer d'un noyau ? C'est d'habitude comme cela, dans le néo-darwinisme, dans la théorie évolutive, qu'on pose les questions. Si un hypothétique événement symbiotique aurait inséré cette structure au fond de nos cellules, la question est donc, comment est-ce que ce noyau a-t-il pu rester bénéfique depuis la nuit des temps ? On voit qu'on est ici dans une énigme totalement inhabituelle, et c'est là que le questionnement va susciter des surprises inattendues, et on va comprendre très vite pourquoi le sexe en est le complice.
Alors en fait, de quand peut-on dater finalement l'apparition du sexe ?
Alors commençons d'abord par l'apparition de ce qui va être la sexualité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est très difficile, évidemment, de dater cette série d'événements qui a pu conduire à la mise en place de la sexualité. En revanche, ce qu'on sait, c'est que l'évolution de la sexualité va imposer une relation entre des individus. Ça veut dire que, du coup, les individus vont avoir petit à petit besoin, pour se reproduire, d'être à deux. Ce qui ne se passe pas chez les bactéries, où on peut se couper en deux, tout simplement. Donc, on voit très bien qu'il s'agit beaucoup plus d'une contrainte évolutive que d'un avantage colossal. En revanche, on a peut-être des solutions si on comprend que d'un côté, on a des cellules qui vont avoir une faible paroi, une très faible membrane cellulaire et en plus une membrane nucléaire, les eucaryotes, et qui vont être des très grosses cellules. Et de l'autre côté, des cellules bactériennes qui vont avoir énormément de parois cellulaires, d'éléments protecteurs et par contre rien autour de leur ADN. Alors, il faut dire que les gènes, en général, ont de la pudeur. Ça veut dire qu'ils n'aiment pas être tout nus. Donc, on admet que quand ils sont tout nus, quand ils ne sont pas protégés, les gènes, l'ADN, disparaît ou ils meurent. Donc, on présuppose que tout va commencer par des bulles qui vont habiller de l'ADN. Ces bulles dans lesquelles l'ADN va se réfugier sont des bulles de lipides, par exemple. Cela a sûrement commencé il y a environ, on va dire, 3,5 milliards d'années. C'est-à-dire à peu près 1 milliard d'années après la formation de la Terre. Ensuite, vers 3,4 ou 3,1 milliards d'années, ces bactéries vont commencer à mettre en œuvre leurs parois épaisses pour se protéger de tous les désagréments de l'environnement supposé infernal de cette période-là. Pour cela, elles vont en quelque sorte se rouler dans la vase, se rouler dans des molécules particulières qui vont former petit à petit cette paroi bactérienne épaisse.
Donc en fait, il y a plus de 3 milliards d'années, les premières bactéries apparaissent.
Voilà, les bactéries sont les très anciens organismes de la planète. On peut donc considérer qu'ils sont parmi les premiers. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces bactéries ? Eh bien, donc, cette paroi cellulaire énorme. Et puis, un matériel génétique circulaire. En fait, un seul chromosome en rond. Et elles n'ont pas de noyau. Or, en associant ça, on s'aperçoit aussi que les bactéries n'auront jamais de sexe. Elles n'ont pas de sexe et elles n'en ont jamais eu. Le temps passe. Et nos bactéries vont s'organiser pour trouver une physionomie valide. On considère qu'il a fallu 1,5 milliard d'années, avec la météo terrestre qui va se calmer un peu, pour que des bactéries un peu plus malignes que d'autres avaleraient une autre bactérie pour fabriquer le fameux eucaryote unicellulaire. Mais on a vu que c'était quelque chose, que c'est un endosymbiose et probablement une hypothèse difficile à admettre.
Une bactérie aurait absorber une autre pour former un noyau.
Voilà, c'est l'hypothèse principale, que ce soit de Lynn Margulis, de James Lake ou de Marcia Rivera. Le noyau proviendrait de cet événement endosymbiotique primitif. C'est ce qui expliquerait pourquoi la plupart des organismes sont diploïdes, puisque ça veut dire qu'il y a deux hélices, que l'ADN est double. On ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs, il est double. Enfin, il se serait mis double parce qu'il associerait les gènes d'une bactérie ou d'une autre. Dans la réalité, comme on sait que les deux ensembles de l'ADN sont parfaitement compatibles, on voit mal trop comment ça peut se faire, mais enfin, c'est une hypothèse. Et cet ADN va s'associer si fortement que progressivement, il serait devenu semblable. On ne sait pas trop comment.
Mais pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que ce noyau qui va petit à petit protéger l'ADN va offrir un avantage. Il va mettre le matériel génétique à l'abri des mauvaises conditions. Il faut rappeler que l'effervescence des cyanobactéries donnait petit à petit à la Terre une atmosphère nouvelle. Cette atmosphère, c'est un sous-produit de leur métabolisme, c'est ce qu'on appelle l'oxygène. Et cet oxygène, eh bien, dans ce bain de planète oxygénée, par cette activité microbienne, la cellule va tomber en fait dans un espèce de poison, une espèce de poison qui ne peut pas lui permettre de facilement continuer. Donc notre eucaryote primitif, il va gober des chloroplastes et il va gober les fameuses mitochondries, ce qui va lui permettre soit d'être plante, soit d'être animal, mais ça va surtout lui permettre d'être apte à renifler cette atmosphère. Le temps d'effectuer toute cette progression inédite, eh bien, on aurait quitté les temps farouches de l'archéen pour que notre premier eucaryote apparaisse vers 1,3 milliard d'années. Pour atteindre ensuite un stade multicellulaire, il y a 560 millions d'années. On voit donc qu'il aurait fallu 2,5 milliards d'années pour qu'on passe des toutes premières bactéries aux premiers eucaryotes. Le temps de construire cette organisation terriblement complexe.
Donc une très lente histoire, ou bien non ?
Eh bien, non, on va le voir. Des découvertes récentes ont considérablement reculé l'épisode de l'apparition des eucaryotes. En fait, cette hypothèse de la symbiose, lente, progressive, est très très compliquée à vraiment vérifier, à mettre en œuvre, puisqu'il n'y a pas la phagocytose dont on a parlé, puisque la paroi bactérienne va devenir solide dès le début. Il y a plein d'éléments qui compliqueraient cette hypothèse-là. Il est peu probable que le noyau soit issu de cette particularité de la symbiose. Autant c'est possible pour les chloroplastes ou pour les mitochondries, qui sont donc des petites inclusions à l'intérieur de nos cellules à nous, autant ça peut être des restes de bactéries, autant le noyau est sûrement une autre histoire et probablement une histoire beaucoup plus complexe et intéressante.
Pendant son séjour en France, le Führer a reçu M. Laval, ministre des Affaires étrangères, et le maréchal Pétain. Les honneurs militaires furent rendus aux deux hommes d'État français.
Medefina Babylon.
Vous écoutez Radio Libertaire sur 89.4, la radio de la Fédération anarchiste et une émission qui déménage les sciences du vivant.
Nous sommes toujours à la recherche de ce qui caractérise les eucaryotes, le noyau. Alors Thierry, de quand datent les eucaryotes ?
Alors, on a vu que jusqu'ici, on datait l'apparition des eucaryotes d'environ 600 millions d'années. Pour les plus vieux eucaryotes multicellulaires, et peut-être 1 milliard d'années pour les premiers eucaryotes. Alors que les bactéries, elles, auraient émergé il y a 3 milliards, voire 3 milliards et demi d'années. Donc jusqu'à présent, l'histoire était simple, il fallait forcément que les eucaryotes proviennent de ces bactéries. Mais voilà que les choses ont changé. En explorant des schistes noirs précambriens au Cameroun en 2010, les chercheurs d'une équipe de Poitiers ont fait la connaissance d'un étrange assortiment. Il y avait là des petites choses biscornues qui s'étaient laissées enfermer dans cette roche fossilifère, et ces choses-là étaient enfermées depuis 2 milliards d'années. Ce qui était remarquable était la forme inaccoutumée de ces structures. Normalement, à cette époque-là, 2 milliards d'années, on aurait dû trouver que des colonies bactériennes dans le meilleur des cas. C'est la seule possibilité, seules des bactéries auraient dû exister à cette époque lointaine, puisque les premiers eucaryotes ne pouvaient apparaître théoriquement qu'un milliard d'années plus tard. Or, les curieux fossiles ne ressemblaient pas du tout à des bactéries. Ces organismes complexes qui s'étaient figés dans les schistes étaient pluricellulaires. C'était probablement des animaux assez proches d'un groupe, assez proches des mollusques. Et ça existait déjà à cette période sauvage.
Mais alors, si des animaux à plusieurs cellules existaient déjà, en fait, cela signifiait que les premiers eucaryotes unicellulaires les avaient précédés bien avant.
Eh oui, cette découverte-là va reculer l'émergence des eucaryotes de 1 à 2 milliards d'années, 2,7 milliards d'années même, quelque temps juste après la découverte des bactéries archaïques, parce que du coup, on n'est plus qu'à quelques millions d'années près entre la formation des premières bactéries et des premiers eucaryotes. Alors il y a deux possibilités, soit l'équipe poitevine s'était trompée, soit évidemment, du coup, les eucaryotes auraient pu apparaître il y a plus de 2 milliards d'années. En fait, il y avait déjà quelques chercheurs qui avaient émis cette hypothèse que les plus anciens eucaryotes avaient pu apparaître il y a plus de 2 milliards d'années, ce qui les plaçait quelques centaines de millions d'années après les bactéries primitives. À l'échelle évolutive, c'est très peu. Mais à l'époque, on parlait d'unicellulaire. Or voilà que des êtres hautement complexes dataient de 2,5 milliards d'années et ils étaient eux-mêmes pluricellulaires. Du coup, ils rétrogradaient tous les autres eucaryotes unicellulaires qui avaient dû apparaître encore avant, soit quelques millions d'années auparavant.
Du coup, les eucaryotes sont trop vieux. Ces eucaryotes archaïques pouvaient-ils provenir d'une symbiose entre procaryotes ?
Oui, et tout ça, c'était pas fini. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'il y a d'autres fossiles qui ont permis de repenser l'âge des eucaryotes. Et donc, l'âge des eucaryotes et donc du sexe. On a par exemple découvert une structure fossile qu'on appelle Gripania spiralis et d'autres animaux pluricellulaires qui sont plus ou moins apparentés aux vers de terre ou aux crustacés. Et ils avaient déjà défrayé la chronique, puisque leur âge avait été estimé à plus de 2 milliards d'années. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les acritarches, qui sont des microfossiles à membrane cellulaire, probablement apparentés à des flagellés, et qui ont été extraits de roches vieilles de 3 milliards d'années par l'équipe d'Emmanuel Javot. Voilà. Donc si on a découvert tout ça, on voit qu'il est plausible que les tout premiers eucaryotes trouvent leur origine quasiment en même temps, à l'échelle évolutive bien sûr, en même temps que les bactéries primitives à quelques dizaines de millions d'années près. Donc les premiers eucaryotes sont vieux, ils sont trop vieux. Ces vieillards vénérables sont nés bien trop tôt, puisqu'ils sont nés à un moment donné où ils n'auraient pas dû être présents. Comment supposer qu'une cellule pourvue d'une toute petite membrane et pourvue d'un petit noyau ait pu alors résulter d'un épisode symbiotique ? Tout aurait été beaucoup trop rapide. Or, il a fallu beaucoup plus de temps, normalement, pour acquérir la possibilité de faire cette symbiose. Et là, on voit qu'il n'a pas fallu beaucoup de temps pour bénéficier de ce changement évolutif. Les analyses moléculaires indiquent que les plantes ont émergé des terres dès la période cambrienne. Enfin, il reste toujours le problème du sexe, puisque aucune des organelles endosymbiotiques qu'on trouve dans la cellule vivante, pour l'instant, ne sont capables, les mitochondries ou les chloroplastes, ne sont capables de mélanger leur ADN avec la cellule vivante. Ce que fait au contraire l'ADN du noyau, puisque l'ADN du noyau sert à la recombinaison et que tout le sexe vient de cette entreprise. On comprend donc parfaitement qu'avec cette histoire de noyau, on va être obligé d'approcher de cette période tout à fait farouche, tout à fait étonnante, où on va voir apparaître ce groupe essentiel, les eucaryotes, se différencier des bactéries, et se différenciant des bactéries, ils vont aussi faire apparaître le sexe. Nous sommes ici évidemment dans un mécanisme tout à fait extraordinaire. Choo-choo to Broadway, through Cincinnati. Don't get icky with the 1, 2, 3. Life is just so fine on the solid side of a line. Flip, hold tight. Hold tight, hold tight, hold tight for the Yakisaki wants the seafood, mama. Shrimps and rice, they're very nice. Hold tight, hold tight, hold tight, hold tight for the Yakisaki wants the seafood, mama. Shrimps and rice.
C'était Hold Tight des Andrew Sisters.
Et il faut bien tenir la marée. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, la radio sans publicité, sans dieu, sans maître, et dans une émission faite pour nous déménager les méninges, science en liberté.
Alors, pour récapituler, les eucaryotes ne peuvent provenir des bactéries puisqu'ils seraient finalement apparus ensemble.
Voilà. Alors c'est évidemment un bouleversement total de toutes les théories prévues jusqu'à présent, puisqu'on pensait que les eucaryotes, c'est-à-dire les végétaux, les animaux, les champignons et les amibes, etc., n'avaient pu apparaître, toutes ces cellules à noyaux, n'avaient pu apparaître qu'au cours d'une très très longue histoire évolutive de plus de 2 milliards d'années. On comprend qu'au contraire, ils sont apparus en même temps que les bactéries, mais le problème, c'est que les bactéries, elles, à l'époque, disposaient d'une grosse paroi cellulaire capable de les protéger de leur environnement. Or, les eucaryotes unicellulaires, eux, vont posséder une très faible membrane. Le propre de ces eucaryotes, c'est au contraire d'être capable de se passer des gènes les uns aux autres, car leur paroi cellulaire est très faible, et quand ils se passent des gènes, ils font ce qu'on appelle de la sexualité. En fait, il va y avoir une recombinaison de ces gènes, et c'est ces recombinaisons qui vont leur donner le pouvoir de résister à l'environnement et de rester. Le sexe est apparu en même temps que les eucaryotes, et il est très ancien. En plus, les eucaryotes unicellulaires sont capables de phagotrophie. C'est-à-dire qu'ils sont capables de manger des gros morceaux, des grosses unités alimentaires. Alors, à notre échelle, c'est tout petit, hein, c'est qu'est capable de faire votre globule blanc macrophage, par exemple, pour manger des bactéries qui sont mortes dans votre corps, ou les cellules qui meurent qui se promènent dans votre corps. Et donc cette phagocytose est un point important. Mais cette phagocytose, les bactéries ne savent pas le faire, car il faut un dispositif particulier. Et puis il y a plein de choses qui s'opposent évidemment, qui opposent les eucaryotes aux bactéries, la présence de petites inclusions cellulaires, mais ça a moins d'importance, les mitochondries et les chloroplastes. La présence surtout d'une immense organisation qu'on appelle le noyau cellulaire, avec toute l'organisation qui va autour de ce noyau. Et bien sûr, la taille immense des eucaryotes par rapport aux bactéries.
En fait, immense. Tu peux nous donner un ordre d'idée de la taille, hein?
Oui, alors on l'a déjà un petit peu dit en début d'émission. Là, les plus grandes bactéries font entre 1 et 2 microns, et c'est vraiment les plus grosses bactéries, alors que les eucaryotes les plus petits font 500 à 1000 fois cette taille. Une paramécie, par exemple, c'est au moins 500 microns. Mais les dimensions vont encore être évidemment plus grandes, puisque ces dimensions des eucaryotes, ça va de la paramécie unicellulaire jusqu'à la baleine bleue.
Donc, alors, la paroi bactérienne ne pourrait être à l'origine du noyau.
Alors, comprenons-nous bien. Si au départ, on supposait, comme tout le monde le supposait jusqu'à présent, qu'on avait une première bactérie qui avait avalé une seconde bactérie et qui avait utilisé cette membrane de cette seconde bactérie pour fabriquer le noyau, eh bien, on aurait évidemment les fameuses molécules de la paroi bactérienne qui est truffée de molécules particulières, les fameux peptidoglycanes, qu'on retrouverait dans notre structure à nous. Si c'était un virus, on retrouverait les coquilles de protéines des virus. Or, la structure de l'enveloppe nucléaire contient bien quelques gènes de bactéries, mais elle n'est pas franchement semblable. Les molécules membranaires des eucaryotes diffèrent vraiment beaucoup trop de cette fameuse paroi bactérienne.
Mais alors, reste toujours notre question. Il vient d'où, le noyau de nos cellules ?
Hey, on voit qu'on n'arrête pas de tourner en rond. C'est-à-dire qu'on a beau se poser la question de ce que sont les eucaryotes, on est toujours confronté à cette hypothèse qu'il faut expliquer le noyau. Si le noyau n'est pas venu de l'extérieur, si ce ne sont pas les eucaryotes qui ont avalé ce noyau, il a fallu qu'il vienne de l'intérieur. Mais en fait, il vaut mieux se poser la question autrement. Posons-nous la question, à quoi sert ce compartiment étrange ? Alors c'est une énigme à quoi il sert. D'abord parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre les eucaryotes et les bactéries. En fait, il y a bien un petit groupe bizarre qu'on appelle les planctomycètes, enfin à l'intérieur des planctomycètes, les gemnata, qui possède un espèce de compartiment qui est parfois identifié comme une sorte de noyau primitif. Mais en fait, la structure des gemnata semble plutôt découler d'une évolution convergente, c'est-à-dire qu'elles ont été confrontées à des conditions environnementales sévères, et ces étranges bactéries, elles ont résolu le problème de ces conditions environnementales par une sorte de compartimentation primitive qui ressemble au noyau. Mais il n'y a aucune parenté entre ce pseudo-noyau et le vrai noyau des eucaryotes. Donc le problème reste entier.
Alors là aussi, je suppose les biologistes doivent avoir des explications.
Alors, à quoi sert le noyau ? Eh bien, la première explication qui vient immédiatement à la tête de tout le monde, c'est que le noyau serait une protection, quelque chose qui va protéger l'ADN, car on l'a vu, l'ADN est très fragile. L'ADN ne peut rester tout nu. Si l'ADN se libère tout nu, eh bien, il est mangé, il est digéré. On imagine bien donc le noyau comme une espèce de muraille qui va défendre le matériel génétique contre les assauts de l'environnement. Mais voilà, les bactéries ne font rien que nous contredire. Les bactéries n'ont pas de noyau. Et pourtant, elles résistent beaucoup mieux que nous à des conditions extérieures très très sévères. Et tout ça sans noyau. On a même chez les archées des animaux extrémophiles capables de vivre dans les sources d'eau chaude. Enfin, quelque chose d'inimaginable. En outre, si le noyau servait à protéger l'ADN, on ne comprend pas pourquoi ce noyau va exploser au moment précis où l'ADN va se former des chromosomes chez nous pour former de la sexualité. Et qu'à un moment donné, l'ADN il est mélangé, et puis d'un seul coup, il va former des véritables structures qu'on appelle les chromosomes, et ces chromosomes vont faire éclater le noyau. Or, c'est à ce moment-là que la sexualité commence et que l'ADN pourrait être le plus fragile. Donc, la réponse, elle n'est pas là. Mais il faut chercher une autre piste. Il faut essayer de comprendre dans l'ADN ce qui va se passer. En fait, il faut comprendre que le noyau cellulaire constitue une réponse à une difficulté que les bactéries n'ont pas. Ce n'est pas la même question. Le noyau des eucaryotes répond à une question qui se pose aux eucaryotes, mais qui ne se pose pas aux bactéries. Et cette question, vous allez le deviner, c'est encore le sexe.
To a party in the county jail. Prison band was there and they began to wail. Band was jumping and the joint began to swing. Should have heard the knocked out jailbird singing. Let's rock, yeah, let's rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played the tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. Drummer boy from Tennessee with crash boom bang. Rhythm section was a purple game. Yeah, let's rock. Yeah, let's rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jailhouse rock. Dancing to the jailhouse rock. Rocking to the jailhouse rock. Shaking to the jailhouse rock.
nobody in the old sail block was dancing to the jailhouse rock. Seven said to number three, you're the cutest jailbird I ever did see. Show it be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me and let's rock. Yeah, let's rock now. Everybody in the old cell block was dancing to the jailhouse rock. Sad sack sitting on a block of stone, over in the corner weeping all alone. The warden said, buddy, don't you be no square. Find a part that you do what you tell. Let's rock. Oh, let's rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jailhouse rock. They were shaking at the jailhouse rock. Popping at the jailhouse rock. Rolling at the jailhouse rock. Shaking at the jailhouse rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jailhouse rock.
C'était Carl Perkins, Jailhouse Rock, le rock de la prison. Donc, nous sommes sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans dieu et sans publicité. Et dans une émission faite pour les cortiqués du bulbe, science en liberté. Donc, revenons à notre histoire. Les eucaryotes n'ont rien de bactéries géantes. Ils sont carrément différents.
Eh oui, on est ici en présence d'organismes très très différents. Donc les eucaryotes, c'est nous, les plantes, les protistes, les végétaux, les animaux. Et tous nous possédons au sein de nos cellules le fameux noyau. Alors en regardant tous ces éléments qui vont différencier les bactéries de nos propres cellules eucaryotiques, on peut maintenant faire apparaître une nouvelle idée. Est-ce que ce noyau cellulaire ne servirait pas tout simplement à maintenir la quantité démesurée d'ADN que renferment les eucaryotes ? Car bien que nous n'ayons que 4 fois plus de gènes qu'une bactérie, les eucaryotes disposent en moyenne de 500 fois plus d'ADN que les bactéries. On voit ici qu'on a un matériel génétique qui multiplie les doublons, qui organise ça en paires de filaments, généralement même les plus élémentaires, qui fabrique beaucoup de chromosomes, et ce matériel est en plus diploïde.
Donc il y a beaucoup d'ADN dans nos cellules, et en fait il me semble qu'on parle même d'ADN ne servant à rien.
Oui, on a même de l'ADN dit ADN poubelle, c'est-à-dire de l'ADN qui est là, on ne sait pas du tout à quoi il sert. Chez l'espèce humaine, par exemple, on considère que ça représente plus de 90% de notre ADN. Et nos cellules ont un vrai problème. Elles disposent de cette quantité phénoménale d'ADN, alors que celui-ci va se dédoubler lors des premières phases de la reproduction, quand on va commencer à fabriquer une nouvelle cellule. Là, la membrane nucléaire va exploser à chaque fois que la cellule eucaryotique va faire du sexe, ou même quand elle pratique une simple reproduction, c'est-à-dire quand elle se divise en deux. Or le problème, c'est qu'on renouvelle nos cellules périodiquement, en général tous les 7 ans, ça veut dire que nos cellules vont se reproduire, se diviser sans arrêt. Et donc, sans arrêt, on va avoir le noyau qui explose et qui se reforme. Donc, ça veut dire que la cellule ne retient pas l'intégralité de sa structure quand l'ADN est en ligne. Quand l'ADN forme des chromosomes, ils vont s'aligner, et là, la cellule est quasiment obligée de se diviser, et le noyau va disparaître à chaque fois que la cellule se partage.
En fait, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'utilité, alors.
Voilà, le noyau a à ce moment-là plus d'utilité. Pourquoi ? Parce que le problème du noyau, c'est qu'il est probablement là pour résoudre un excès d'ADN dans la cellule. Ça se voit assez bien, puisqu'en fait, le noyau va constituer de cet ADN, il va casser les chromosomes pour former ce qu'on appelle un amas de chromatine grâce à des molécules qui s'appellent les histones et toutes ces molécules, et d'autres protéines au demeurant, et toutes ces molécules vont former un amas de chromatine qui va empêcher l'ADN d'être sous le format de chromosome quand il est dans le noyau. Et à un moment donné, les chromosomes vont s'aligner, vont se former, et ça va casser le noyau.
N'est-ce pas la théorie que tu as récemment publiée dans une revue scientifique, hein ?
Oui, c'est ce qu'on appelle la théorie autogène. Alors, je l'ai développée, oui, dans une publication récente. C'est la théorie de la cariogénèse. Cette théorie de la cariogénèse dit qu'au lieu de provenir d'une inclusion bactérienne extérieure ou d'une inclusion virale, le noyau pourrait s'avérer être la solution qui répond tout simplement aux contraintes physico-chimiques internes provoquées par une énorme quantité d'ADN sous la forme de chromosomes linéaires. En quelque sorte, les eucaryotes ont franchi la ligne. Chez les bactéries, l'ADN est une boucle circulaire, et ce chromosome construit un espèce de cerceau qui va rester tout nu au milieu de la cellule, mais protégé par la grosse paroi bactérienne. Chez les eucaryotes, au contraire, les chromosomes vont ressembler à des tresses. Ces tresses vont former des lignes, des chromosomes, et chacune de ces tresses est bloquée par une sorte de nœud. Ce nœud, c'est ce qu'on nomme le télomère, un peu comme l'élément qui referme votre tresse de vos lacets de chaussures. Ce télomère va refermer cette tresse d'ADN à la manière des embouts de lacets de chaussures, et c'est ce qui va éviter l'effilochage des gènes. À chaque reproduction, le télomère va s'user un peu et va diminuer, ce qui va réduire l'efficacité du chromosome à se remettre de ces dédoublements successifs et permanents. C'est d'ailleurs ça qui provoque en général le vieillissement des cellules et le vieillissement des organismes. Le télomère va se détériorer et les chromosomes vont se défaire. En fait, on voit ici que la télomérase, qui va être l'enzyme qui est constitutive de tous les eucaryotes et qui est présente uniquement chez tous les eucaryotes, va divulguer l'importance de cette configuration en chromosomes linéaires. À tel point d'ailleurs que certains Américains ont cru qu'en avalant de la télomérase, ils pourraient augmenter leur longévité. C'est pas si simple, parce qu'en avalant de la télomérase, on augmente certes la durée de vie des télomères, mais on rend possible la recrudescence des divisions cellulaires, et cette prolifération cellulaire, ça forme des tumeurs. C'est ça le côté obscur de la télomérase.
Ah, c'est terrible. Il serait développé tout seul dans la cellule eucaryote parce qu'il répond à une pression interne.
Voilà. La quantité d'ADN fait pression et le noyau répond à cela. En gros, on peut supposer que la cellule va former d'abord, elle va grossir, elle va répondre à ses besoins nutritifs, elle va grossir. Comme la paroi entre les cellules eucaryotiques est très faible, il y a probablement eu beaucoup d'échanges de gènes. Beaucoup de gènes sont entrés dans les cellules, d'une cellule à l'autre. Probablement que ces cellules devaient vivre dans une sorte d'importante promiscuité, parce qu'elles n'avaient pas la paroi cellulaire pour les protéger en surface, et donc elles étaient obligées de vivre ensemble, les unes à côté des autres. Du coup, l'ADN passait d'une cellule à l'autre. Cet ADN est devenu très important. Il a fallu que des invaginations de la membrane cellulaire forment des compartiments primitifs, ce qu'on appelle maintenant le réticulum endoplasmique. Ce réticulum endoplasmique, qui est une annexe du noyau cellulaire, va transformer les protéines pour mieux les absorber. Grâce à cet organite, il va se développer tout un ensemble de réseaux internes, l'appareil de Golgi, par exemple, qui a des fonctions métaboliques, et enfin, bien sûr, le noyau primitif. C'est une invagination assez compliquée qui va former ce sac nucléaire qui va ranger l'ADN bien au propre dans son coin. Ce réseau entier va configurer tous ces ensembles de compartiments, ces compartiments qui vont séparer le métabolisme de la cellule, c'est-à-dire ce qui permet de produire des enzymes digestives, de se nourrir, etc., la respiration cellulaire, etc., et la reproduction. Les deux choses vont maintenant être différentes. Le noyau n'est pas tout seul. La cellule va médiatiser sa relation à l'environnement en dissociant d'un côté la prise de nourriture et de l'autre côté la reproduction. La prise de nourriture, c'est j'avale tout ce qui est à l'extérieur, grâce à des protéines de sensibilité qui me permettent de dire ça c'est un aliment, ça c'en est pas. Et d'autre part, la sexualité qui va, elle, dire « Eh bien, je prends de l'ADN de l'autre, mais j'échange de l'ADN pour pas en avoir des trop grosses quantités. » C'est comme ça que va s'inventer la méiose, c'est-à-dire la séparation, la réduction de la quantité d'ADN, probablement à partir d'un mécanisme de réparation de l'ADN. En tout cas, les protéines vont se spécialiser dans la membrane pour incorporer une étanchéité qui va être sélective. Et donc, la chose la plus incroyable, c'est que le sexe va naître de cette organisation nouvelle qui va partager d'un côté la gastronomie de la cellule et de l'autre côté la sexualité. Et en provoquant cette sexualité, eh bien, ça va obliger les cellules à se spécialiser avec un noyau, mais aussi à se spécialiser dans le fait d'avoir des relations les uns avec les autres. Le noyau est par conséquent une réponse évolutive aux forces physico-chimiques internes de la cellule.
Nous écoutions Otmar Liebert, August Moon. Donc aujourd'hui, on cherchait ce qu'étaient les eucaryotes, c'est-à-dire nous, les plantes, les animaux, car nous avons des cellules avec des noyaux, alors que finalement, les bactéries n'en ont pas. Et on découvre que le noyau en fait ne sert pas à protéger notre ADN.
Et voilà, le noyau cellulaire ne sert pas à protéger l'ADN, c'est au contraire une prison pour ADN.
Une prison carrément, l'ADN ne peut sortir.
Ah oui, pour qu'il sorte, il faut que le noyau se casse. Ce noyau, il est composé d'une grille de tubules qu'on appelle la lamina du noyau, qui va constituer une sorte de cachot qui va enfermer le matériel génétique, en même temps que cette lamina va favoriser l'accrochage des chromosomes lors de la division cellulaire. Ces chromosomes sont aussi repliés dans cette prison nucléaire. Ces chromosomes qui sont si longs, ils sont ici recroquevillés sous une forme neutre. Ils sont recroquevillés par des protéines, et notamment par les histones dont on a parlé tout à l'heure, qui vont s'accrocher aux filaments des chromosomes pour les mettre en boule, pour en fabriquer un amas. C'est ce qu'on appelle l'amas de chromatine. Ça veut dire que dans le noyau, logé dans le noyau, le volume énorme de l'ADN est complètement neutralisé, avec sa fragile constitution rectiligne normale est ici passée sous forme d'une boule. Et donc évidemment, cette prison pour ADN va empêcher cette expression particulière de l'ADN. Mais ça va encore plus loin. Car il se passe autre chose encore. La recette va être dissociée du gâteau. C'est-à-dire qu'en entourant l'ADN, le nouveau compartiment nucléaire, le noyau, va séparer la traduction des gènes et la transcription des protéines que ces gènes codent. Ça veut dire que le noyau va posséder deux fonctions qui sont directement liées aux contraintes physico-chimiques internes à la cellule, loger de l'ADN sous une forme stable, ce qu'on appelle la chromatine, et disjoindre le décodage génétique. Alors c'est dans la plupart des cas, parce qu'il y a aussi des cas de méiose intranucléaire, mais en moyenne, on va dire que cet élément-là est parfaitement explicatif de ce à quoi sert le noyau.
C'est d'une modernité insoupçonnable. Finalement, le noyau est
une modernité.
Oui, parce qu'en en fait, là, le noyau est une bastille qui empaquette l'ADN. Quand le noyau se lâche, les chromosomes jusqu'ici bien protégés reprennent le chemin de la division ou de la reproduction sexuelle. Est-ce que je comprends bien ?
C'est tout à fait ça. Au départ, ils sont sous une forme, un amas. Et évidemment, à l'intérieur du noyau, ils sont enfermés par cette lamina et par ces histones. Alors une bastille, je ne sais pas, parce que la bastille, ça se prend. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils explosent au bout d'un moment. La forme linéaire des chromosomes favoriser la ségrégation des deux brins d'ADN. Et on va voir les deux brins d'ADN qui vont se séparer l'un de l'autre. Et ça va permettre de fabriquer ce qu'on appelle la méiose. Le mécanisme de la méiose va découpler ce matériel génétique pour le réduire à un seul ensemble, à un seul brin, un seul jeu de chromosomes. Le spermatozoïde ou l'ovule, vont devenir haploïdes, c'est-à-dire avec un seul jeu de chromosomes, alors que notre corps est en général diploïde. On voit ici que ce processus de la méiose, c'est le processus du sexe, celui qui va construire la sexualité. Et évidemment, avec le noyau, on va inaugurer l'aventure incroyable du sexe. Ici, on s'aperçoit aussi que va s'imposer la relation entre les individus. La relation entre les individus va maintenant, avec le sexe, avec la méiose, avec le noyau cellulaire et avec les eucaryotes, va devenir une nécessité évolutive, parce qu'il va falloir la réconciliation des amours pour qu'il y ait un œuf fécondé, et cet œuf fécondé sera la recombinaison totale des gènes qui va reconstituer le doublement qui avait été perdu grâce à la méiose.
Quelle histoire! Nous sommes loin, finalement, de l'idée des gènes et de l'égoïsme de la nature.
Oui, on voit très bien ici que chacun a besoin des autres et que les autres ont besoin de chacun. Avec le sexe, on va avoir besoin des autres pour évoluer. Donc, ça ne constitue pas un avantage en soi. Ça résulte, au contraire, d'un mécanisme qui va exister avec plusieurs étapes. On est ici dans un élément historique, c'est une histoire qui se raconte, cette histoire qui s'est passée chez les seuls eucaryotes et qui va conduire à la recombinaison, c'est-à-dire à l'échange des gènes, à la méiose, c'est-à-dire la réduction en un seul brin d'ADN, à la gamétogénèse, c'est-à-dire la fabrication des cellules avec ce seul brin d'ADN qui vont être les cellules sexuelles, spermatozoïdes et ovules, et enfin à la syngamie, c'est-à-dire à la fusion d'un ovule et d'un spermatozoïde. Voilà que des spermatozoïdes haploïdes vont pouvoir coller leurs gènes à ceux d'ovules haploïdes lors d'une fécondation qui va restaurer un organisme à deux paires de chromosomes, un être vivant diploïde. Mais cet être vivant, il va être totalement original. L'arrangement va être totalement singulier. Alors là aussi, c'est pas autant un avantage qu'on pourrait croire d'être différent, d'être différencié. Bien au contraire, ça forme des individus uniques, mais ces individus uniques qui vont évidemment être confrontés à des problèmes tout à fait extraordinaires, tout à fait particuliers. On voit ici que le fait de former ces organismes uniques va aussi casser toutes les associations dites sélectives, toutes les associations qui auraient permis normalement de bien vivre dans telle et telle condition. Les eucaryotes vont donc promouvoir la différence, la différenciation, la variation, la diversité, alors que les bactéries vont connaître leur diversité autrement. Et surtout, la première sexualité, la proto-sexualité des premiers eucaryotes, va entraîner une accumulation de caractères particuliers, parce qu'au cours de la méiose femelle, les quatre cellules produites vont se détruire pour n'en retenir qu'une seule. On va donc avoir affaire à un effet boule de neige, ce qu'on appelle en génétique l'emballement de Fischer, et cet emballement de Fischer va retenir les gènes qui sont les plus efficaces à l'ensemble du processus.
Quelle aventure fantastique et passionnante!
Et oui, et tout ça se produit, tout ce sexe n'a pu être produit que parce que les eucaryotes ont inventé le noyau et donc la capacité de s'associer à deux individus pour en produire un troisième. Un troisième qui produit un arrangement singulier de ces chromosomes et qui fait de chacun d'entre nous des êtres uniques. Vous et moi sommes totalement uniques et non pas comme les bactéries qui sont toutes produites d'un même ensemble. Attention, le fait d'être unique n'est pas un avantage! C'est simplement le résultat de notre histoire. La preuve que ce n'est pas un avantage, puisque les bactéries, elles, sont parfaitement des clones, elles se forment les unes les autres à partir d'elles-mêmes, et en fait, ça ne les empêche absolument pas de continuer leur évolution. On est donc ici dans une histoire tout à fait passionnante.
C'était Quattro Chichi.
Vous écoutez Radio Libertaire sur 89.4, la radio de la Fédération anarchiste et une émission qui déménage les sciences du vivant.
Nous voilà arrivés au terme de cette émission avec notre conclusion. Et nous avons donc vu que la sexualité commence ici. Le noyau cellulaire est juste le témoin de l'apparition d'une relation obligatoire, le sexe. Avec le sexe,
Les eucaryotes archaïques vont privilégier l'association. Au contraire, les bactéries ne s'échangent que des petits morceaux de gènes, que le plus souvent, elles volent à une bactérie morte. Et ordinairement, leur division reste clonale. Bien que parfois on parle improprement de conjugaison, les bactéries ne connaissent rien du sexe. Leur reproduction reste majoritairement clonale. Les bactéries et les autres procaryotes sont véritablement des êtres vivants asexués. Et cela ne les rend pas moins efficaces, comme le prouve la virulence des maladies et la capacité à varier qu'ont toutes ces bactéries. Si parfois, rarement, les bactéries recombinent de l'ADN, partiellement, elles ne pratiquent jamais une vraie sexualité. Car le mélange d'ADN n'est jamais complet, il est morcelé. Il faut donc le mentionner, la conjugaison bactérienne est très différente de la sexualité des eucaryotes. Même les plus simples des eucaryotes, que sont les paramécies par exemple, connaissent une vraie conjugaison, une vraie sexualité. Chez les bactéries, pas de noyau, pas de cellules sexuelles, pas de méiose, pas de syngamie, cette fameuse fusion qui va résulter des amours. Les bactéries n'ont rien. Comme le disait Graham Bell, à l'opposé de notre génome d'eucaryote, lui, traduit une inhérente et fondamentale sexualité. En abandonnant la destinée des bactéries, les eucaryotes ont construit leur spécificité sur la sexualité. De deux histoires parallèles a découlé le fait que notre nature est essentiellement dans le sexe. La divergence radicale entre les deux groupes, prokaryotes d'un côté, eucaryotes de l'autre, change complètement la physionomie de la planète Terre, car grâce au sexe, protistes, champignons, végétaux et animaux, c'est-à-dire les eucaryotes, vont construire des milliers d'écosystèmes nouveaux. Ils vont s'associer dans des relations complexes, la vie va se développer. Nous sommes donc partis de l'énigme du noyau et nous avons rencontré le rôle de la relation, le rôle du sexe chez tous les eucaryotes. Le sexe est la dynamique essentielle des êtres vivants. On le voit, il n'y a pas lieu d'accepter les idéologies qui refuseraient le sexe ou qui condamneraient le sexe avec des injonctions morales. Non, la nature ne connaît pas d'autres normes que la diversité des conduites sexuelles. Et il s'agit déjà d'une autre histoire dont nous reparlerons bientôt.
Auditrices, auditeurs intrépides, vous pouvez nous contacter en téléphonant au studio ou sur l'email de l'émission Science Libre @gmx.fr. Science Libre au singulier. Nous avons maintenant une page web accueillie sur le site de Trou Noir où vous pourrez retrouver nos émissions et tout un ensemble de commentaires. Enfin, nous avons le loisir de vous retrouver tous les 4e lundi de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et les idéologies qui la parcourent. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté, animé par Thierry Laudet. Au revoir Thierry.
Au revoir Fiona.
Avec la complicité de Monique à Paris. La musique d'introduction est d'Hicham Chiaidi. Et nous allons conclure sur les Berruriers Noirs, Porcherie La Eva.
Voilà, alors en fait, on s'aperçoit bien à travers toute cette histoire que notre cellule n'a pas ici développé d'énormes éléments idéologiques permettant de contredire la biologie, mais les nouvelles découvertes nous permettent de comprendre que le sexe est d'abord un phénomène historique, un phénomène lent, et non pas un phénomène sélectif qui aurait présenté des avantages, qui se serait imposé. On est bien ici dans une histoire. La biologie évolutive, c'est d'abord de l'histoire qu'on fait, et cette histoire, elle est très intéressante. Parce qu'elle permet de comprendre la grande bifurcation des espèces, elle permet de comprendre comment se sont développés des éléments aussi essentiels à notre survie, à notre vie, que le fait de se nourrir, mais bien entendu aussi le fait de faire du sexe et aussi d'utiliser ce sexe pour éventuellement se reproduire. Merci à tout le monde, au revoir à tous, et donc nous repartons sur les Berruriers.
Merci!
Les hommes se comportent comme les porcs, les élevages en batterie, à des milliers de temps de mort.
Porcherie,
nous sommes dans des paradis, on est au prix sur son débit. Nous sommes dans un état de jade, et partout c'est le roi du pain.
Porcherie,
prostitution,
tueur à la violence. De l'autre l'ombre millénaire, pour finir en règle en bon, à vous le de soyons, marcherez, jeunesse immigrée, solidaire.